carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Comme chaque année, Canal Académie fête Noël. Et dans le cadre des émissions Carrefour des Arts, il convient de célébrer la naissance du Christ dans les arts. L'occasion nous en est offerte cette année par l'exposition « Trésors des Médicis » qui se tient à Paris en cet hiver 2010 jusqu'au 13 février 2011 au musée Mayol. Et parmi les trésors qu'elle nous offre, une célèbre toile de Sandro Botticelli, « L'adoration des mages ». Nous évoquerons également une autre œuvre de Botticelli qui s'impose en cette circonstance, la Nativité mystique, que l'on peut admirer à la National Gallery de Londres. Grande spécialiste de la Renaissance italienne, Patrizia Nitti a bien voulu répondre à notre invitation de venir dans nos studios et nous éclairer sur ses chefs-d'œuvre. Madame Patrizia Nitti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à l'origine de cette exposition « Trésor des Médicis » et d'ailleurs également directrice artistique du musée Mayol à Paris qui l'accueille. Et avant d'admirer Botticelli et son adoration des mages, vous pouvez peut-être nous dire quelques mots sur cette exposition. Il est tout à fait exceptionnel d'avoir pu rassembler tous ces trésors des Médicis, ces objets précieux, ces manuscrits rares, ces naturalia du cabinet des merveilles, ces peintures et sculptures venant des plus grandes collections italiennes et françaises. Donc, comment vous avez réussi à réaliser une telle exposition?
C'est un long travail, c'est aussi une grande preuve de confiance des Italiens qui m'ont permis de mettre ensemble beaucoup d'années de travail. Et je pense que le Trésor des Médicis, c'est un peu une synthèse de ces 10 années que j'ai passées au musée du Luxembourg où j'avais porté des grands génies de la Renaissance. Et je pense que le Trésor des Médicis est vraiment la synthèse de tout ce travail de ces 10 dernières années.
Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu, pour nos auditeurs qui se trouvent aussi bien, vous savez, au Japon, ou en Suisse, ou en Australie, peut-être pour les faire venir à Paris, en tout cas pour les faire rêver. Je vois qu'il y a plusieurs salles séparées, c'est-à-dire la salle des reines, la salle des papes, la bibliothèque médicéenne, etc. Enfin, vous pouvez peut-être nous raconter ça.
Ouais, cette famille est absolument extraordinaire. C'est une famille qui naît comme une famille d'apothicaires, qui va devenir une grande famille de banquiers. Puis, petit à petit, ils vont devenir les banquiers les plus puissants d'Europe. Ce sont des hommes cultivés, des hommes très intéressants, des esthètes raffinés. Et en 3 siècles et demi que durera la famille, ils amassent une collection absolument prestigieuse. Cette collection est extrêmement éclectique parce qu'elle est le reflet des 3 siècles et demi qu'ils vont traverser. Cette collection est très particulière parce que ça n'est pas une collection comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire le recueil d'un certain nombre d'œuvres, mais c'est vraiment le résultat d'un projet de vie. C'est vraiment un projet intellectuel et c'est légué à la postérité un projet d'existence. Donc l'exposition est très variée, comme vous pourrez le voir, puisqu'elle recueille vraiment un très grand nombre de collections complètement différentes, depuis l'origine avec Comme l'Ancien, qui va, avec la redécouverte de l'archéologie, il va collectionner de très très belles pièces archéologiques. Il va s'entourer de très grands artistes comme Frangelico, comme Pollaiolo. Puis vous allez voir un merveilleux tableau dont nous allons parler tout à l'heure, qui est l'Adoration des Mages de Botticelli. Puis vous verrez des reliquaires, vous verrez des pièces absolument extraordinaires. Vous verrez des tableaux, vous verrez Bronzino, vous verrez Raphaël, vous verrez une sculpture magnifique de Michel-Ange, vous verrez des exotiques dans le cabinet de curiosité de François Ier de Médicis. Aujourd'hui, on parle beaucoup du musée des arts premiers. Eh bien, vous découvrirez peut-être avec une certaine stupeur que le cabinet de François Ier de Médicis, c'était un musée d'art premier.
Oui, parce que c'était toutes les curiosités qui venaient du Nouveau Monde,
oui,
qu'ils
parce
ont
que
eu le génie de collectionner déjà.
Oui, parce que contrairement aux hommes de son époque, il pensait que les nouveaux territoires étaient intéressants aussi bien intellectuellement. C'est-à-dire que contrairement aux autres qui jetaient les objets des indigènes, comme des choses de sauvages, lui avaient déjà une très grande notion d'anthropologie et il pensait que leur culture était extrêmement intéressante. Oui. Donc, il l'avait dépêché des hommes pour trouver des objets et les rapporter.
Donc, vraiment, avis à tous nos auditeurs que vraiment, ça vaut la peine de venir à Paris rien que pour visiter cette exposition « Trésor des Médicis ». Ça nous mène...
Oui, nous n'avons pas parlé des papes et des reines, parce que c'est un passage très, très important dans les collections, évidemment. Les Médicis vont donner de papes à la chrétienté et de reines à la France. Donc, de là aussi, un très grand nombre de collections.
Catherine de Médicis qui a épousé Henri II et Marie
qui a épousé Henri IV.
Voilà.
Et puis, des instruments de musique, ils ont aussi été des grands protecteurs des arts, des grands collectionneurs de livres. Enfin, il y a une variété immense d'objets et vraiment de qualité exceptionnelle.
Mais écoutez, ça nous amène à une réflexion que j'ai trouvée dans les catalogues où vous parlez, ou en tout cas vous engagez la réflexion sur le pouvoir et l'art. Et je trouvais ça très intéressant parce qu'évidemment, pour nos sociétés aujourd'hui, le monde du pouvoir et le monde de l'art sont deux pôles bien distincts, sinon même opposés. Alors que dans l'Italie de la Renaissance, à Florence en particulier, donc du 15e au 18e siècle, comme vous venez de l'évoquer, trois siècles tout de même, l'art et le pouvoir allaient volontiers de pair. Peut-être vous pouvez nous rappeler le contexte historique d'alors et surtout pourquoi à l'époque l'art et le pouvoir allaient si bien ensemble.
Comme l'ancien qui est le premier représentant important, surtout le premier collectionneur de la famille, qui est un banquier extrêmement puissant, il est à ce moment-là le banquier le plus riche d'Europe, va commencer les collections. Il achète de l'archéologie, on l'a dit dans la question précédente, il collectionnera un certain nombre de peintres. Mais c'est un collectionneur intime, c'est-à-dire qu'il collectionne pour lui. Il aime l'art, il va se faire construire son premier palais de la Via Larga. Ce sera un modèle d'architecture. Toutes les architectures de l'époque de Florence vont être copiées sur le palais de la Via Larga. Donc c'est un intellectuel raffiné, il aime les collections, mais c'est son plaisir personnel, il collectionne pour lui-même. Les choses vont déjà un peu changer avec Laurent le Magnifique.
Et qui puis, est son petit-fils ou son neveu ?
C'est son petit-fils, et ça changera encore, et d'une façon encore plus éclatante, au moment de Combes Ier. Combes Ier va utiliser vraiment l'art comme instrument de communication. Combes Ier avait coutume de dire que aucun de ses ambassadeurs n'avait la puissance de conviction d'une de ses œuvres d'art à travers l'Europe. Il comprend très bien, très vite, la puissance de communication des œuvres d'art. Aujourd'hui, nous avons une forme de communication qui est beaucoup plus éphémère. La communication arrive, se brûle et est extrêmement rapide. Alors que, à l'époque, on utilise l'œuvre d'art et elle traverse les siècles. Et c'est vrai qu'il y a un grand rapport entre le commanditaire et l'artiste. Mais un commanditaire peut favoriser un artiste plus qu'un autre. Mais son message ne dure que si l'œuvre d'art est de très grande qualité.
Oui. Et ils ont su, en plus...
Ils ont su très bien choisir leurs représentants, puisque aujourd'hui, leurs œuvres suscitent la même émotion.
Absolument, mais bien sûr, oui. Et tout ça est magnifiquement exposé dans Trésor des Médicis.
C'est ce que nous avons voulu vous raconter.
Oui. Écoutez, malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens de faire de la communication de cet ordre. Grâce à vos explications, nous nous sommes trouvés au temps et au cœur des collections somptueuses des Médicis. Alors après ce tour en Italie, une courte pause avant de retrouver donc Botticelli et son adoration des mages.
Thank you.
C'est donc un tableau de cette collection des Médicis, exposée donc à Paris actuellement dans l'exposition Trésor des Médicis, qui en cette émission de Noël retient tout particulièrement notre attention. C'est l'Adoration des Mages de Sandro Botticelli, qui était peint en 1475 et 76 et qui est normalement à Florence, aux Galeries des Offices. Alors tout d'abord, est-ce le seul tableau de Botticelli sur ce thème, sur l'Adoration des Mages, ou en a-t-il créé d'autres ?
Non, il y a un autre tableau, une autre Adoration des Mages qui aujourd'hui se trouve à Washington.
Oui. Donc, celui qui est dans votre exposition est sûrement, je crois, le plus important.
Il se trouve aux Offices. C'est un tableau qui est un passage très important dans l'histoire de l'art.
Oui, on va y revenir tout à l'heure, si vous voulez bien. Mais avant, vous pouvez peut-être nous rappeler brièvement la position de Botticelli dans ce printemps de la Renaissance. Donc, il est né en 1445 et il est décédé en 1510. Oui. Alors, qui étaient ses maîtres, ses influences, ses principaux commanditaires, outre les Médicis éventuellement ? Était-ce un homme de cour ou un homme spirituel ? Enfin, plein de questions, vous pouvez peut-être nous raconter ça.
Botticelli était un élève de Filippo Lippi. Botticelli a eu une formation d'orfèvre. Il a travaillé dans la bottega très jeune. Et puis, son talent s'est révélé très vite et il est rentré dans l'atelier de Filippo Lippi, où il a rapidement excellé. Il va tout de suite prendre une place très intéressante dans l'art. Il va présenter, surtout dans l'art religieux, il va présenter des vierges absolument humaines. C'est la première fois qu'on va donner une telle vraisemblance humaine à la Vierge.
Oui, il a fait beaucoup de Vierges à l'enfant et des Madones.
Beaucoup de Vierges à l'enfant et beaucoup de Madones. Et puis, il sera appelé donc par les Médicis et il fera pour eux l'Adoration des Mages, qui sera pour lui un tableau déterminant, extrêmement intéressant.
Vous pouvez nous
qui
raconter...
le fera beaucoup connaître.
Pardon de vous interrompre, mais vous pouvez nous raconter comment il a rencontré les Médicis. Je crois que c'est par l'intermédiaire d'un Gaspard et Lama.
Il l'a rencontré à travers, je crois, Gasparella, qui était un homme d'affaires très important et qui avait fait fortune dans l'intermédiation financière et bancaire.
Et qui a appelé Botticelli pour faire un tableau pour l'église Santa Maria Novella à Firenze.
Oui, et on pense que Gasparella, on pense qu'il lui a demandé de faire une nativité à cause de son prénom, tout simplement, parce qu'il s'appelait Gaspard, qui était le nom d'un des trois rois mages.
Donc une adoration des mages.
Il lui demande de faire une nativité pour retrouver sa personne, en réalité.
Ah oui, oui.
Et puis, Botticelli ne peindra pas la famille Lame, mais peindra la famille Médicis.
Oui, tout le tableau est un hommage à la famille Médicis.
Oui, c'est un hommage, c'est une consécration absolument extraordinaire, parce que c'est replacé dans un contexte spirituel, des hommes tout à fait réels. Donc, c'est une façon de les sanctifier.
C'est assez unique, je crois, non, dans l'histoire de l'art.
C'est assez unique. Oui. Et, oui, bien sûr.
De représenter toute une famille, enfin toute une dynastie, on peut dire.
Alors, Benotti Gozzi, le peintre, avait fait chez les Médicis une fresque qui représentait toute la famille en nativité.
Ah oui ?
Oui, oui, ça avait été fait sur les murs du palais Médicis. Ils avaient fait le cortège des trois monarques orientaux en 1459.
Donc ça précédait déjà ça précédait Botticelli et son adoration. Absolument. Oui. Enfin, on lui pardonnera.
Alors, Alors l'âme elle avait donc demandé pour leur chapelle personnelle de Santa Maria Novella de faire une adoration des mages. Enfin, c'était une nativité en réalité avec les mages puisque c'était un hommage à son prénom.
Oui. Et donc c'est comme ça qu'il est entré en contact avec les Médicis ou que les Médicis ont entendu parler de cette fameuse étoile qui allait monter dans le ciel de Florence.
Oui. Et quand l'âme, d'accord avec Botticelli, va faire peindre la famille Médicis, c'est de la part de l'âme un geste terriblement politique en réalité.
Oui, oui. Et donc Botticelli...
C'est quand même l'homme le plus puissant de Florence.
Bien sûr.
Donc l'âme a fait un geste très politique.
Oui, bien sûr. Donc Botticelli continue donc à travailler pour les Médicis. Il est appelé aussi à un moment donné à Rome, à participer
à la suite justement. On pense que c'est à la suite de l'Adoration des Mages que sa notoriété grandit énormément. Et il est appelé à Rome pour travailler sur les fresques de la chapelle Sixtine.
Où il n'était pas seul d'ailleurs, il y avait d'autres.
Il y avait Raphaël, il y avait Michel-Ange. Ouais. La chapelle Sixtine, c'est vraiment une grande mémoire de l'humanité, c'est toute la Renaissance.
Ouais. Mais je crois qu'il y a eu un petit problème à Rome et donc il est revenu à Florence.
Oui, à Rome, il n'a pas eu le succès qu'il espérait. Il rentre à Florence et il reprend son travail. Mais à Rome, il n'a pas eu le succès sûrement de Michel-Ange ou de Raphaël.
Oui. En tout cas, il est revenu à Florence et donc il continue à travailler. Mmh. Et peut-être un dernier épisode que nous allons détailler davantage lorsque nous allons parler de la nativité mystique. Mmh. C'est qu'il y a une figure très importante à Florence.
Savonarola, le moine dominicain.
Et qui va beaucoup influencer à la fin de sa vie d'artiste, notre Botticelli. Voyons maintenant l'adoration des mages plus en détail. Vous avez déjà expliqué tout à l'heure qu'il s'agit d'un hommage à Laurent le Magnifique, surtout, et sa famille. Et nous voyons, en tout cas à cette époque, toute la famille des Médicis quasiment au complet. Est-ce que vous pouvez nous le raconter un petit peu plus en détail? Et grâce à notre support écrit où le tableau sera bien sûr reproduit, les auditeurs de Canal Academy pourront suivre toutes vos explications, Patricia Nitti.
Alors, vous avez Côme l'Ancien qui est mort au moment où le tableau est réalisé. Il est mort en 1469. Il est agenouillé, il est le plus vieux des mages. Et puis, il y a les deux fils de Côme l'Ancien, qui sont Pierre et Jean. Pierre est de dos avec la cape rouge. Son frère le regarde. Debout, sur la droite, en noir, avec une bande rouge sur l'épaule, vous voyez Laurent.
Oui, donc Laurent le Magnifique.
Oui, Laurent le Magnifique, oui. Qui est habillé d'une façon assez austère, tout compte fait. Et puis, vous voyez sur l'extrême gauche, avec une épée entre les mains, Julien, qui est le frère, pardon, de Laurent, et qui vient de gagner un tournoi. Donc c'est pour ça qu'il est représenté avec son épée.
Et qui, le malheureux, a été assassiné.
Il a été, pendant la révolte des Pâtes, il a été assassiné. Oui. Mm. Et puis il y a Policien, vous aviez Pic de la Mirandole.
Qui est un grand philosophe humaniste de cette époque, oui.
De cette époque. Et puis vous avez L'Âme, le commanditaire du tableau. Il adresse son doigt vers le public et il montre qu'il est le commanditaire du tableau. Et puis, chose extraordinaire, il y a Botticelli, Botticelli debout, en premier plan du tableau, et ça c'est une chose absolument incroyable, ça prouve la puissance de Botticelli et le rapport très fort qu'il a avec la famille Médicis.
Donc il se met lui-même autoportrait en quelque sorte dans le tableau.
C'est une position extrêmement forte pour le peintre.
Ah, oui, absolument. Oui. Quant à la scène, alors, vous pouvez peut-être nous faire une petite description de la scène, parce qu'il y a Joseph, Marie,
Il y a Joseph, Marie et l'enfant, qui sont au milieu de ruines qui rappellent la Grèce antique, qui est toute la culture de Botticelli et qui est fondamentale dans sa pensée.
Au fond, on voit un paysage un peu antique.
Oui, il revient sur la Grèce. Mm. C'est-à-dire, cette partie, c'est un hommage à l'Antiquité, c'est un hommage à la Grèce qui est vraiment sa matrice culturelle, qui est fondamentale dans sa pensée.
Oui, et donc il a très bien intégré et la temporalité et son inspiration artistique.
Oui, dans ce tableau, Botticelli fait une espèce de jeu, c'est-à-dire que dans un endroit sacré, il va mettre des personnages vivants, donc il va les sacraliser. Il va rendre la peinture plus vraie que la vérité, c'est-à-dire que la vérité, le quotidien, et peu de choses à côté de l'importance et de la vérité de l'œuvre d'art.
Oui, c'est absolument somptueux.
Le tableau était un modèle de référence des comportements et des habitudes sociales. De cette façon-là, les contemporains de Laurent le Magnifique pouvaient parfaitement s'y reconnaître. Disons qu'ils avaient fait de ces personnages mythiques des personnages charnels.
Oui,
donc,
et contemporains.
Ils pouvaient être aussi eux-mêmes.
Oui.
C'était très important parce que c'était une période où le tableau était un modèle de référence des comportements et des habitudes sociales.
C'est-à-dire chaque personnage était représenté un peu avec ses caractéristiques.
Absolument.
Giorgio Vasari, qui cite et décrit le tableau dans sa biographie du peintre Botticelli, dans les fameux Vites. Alors il dit « On ne saurait décrire la beauté que Sandro mit dans ses têtes ». Elles sont montrées dans des attitudes variées, les unes de face, les autres de profil, certaines de trois quarts ou encore inclinées, offrant une grande variété d'expressions et d'attitudes chez les jeunes et les vieux. et cette extravagance dans les détails qui est l'apanage de ceux qui ont atteint la parfaite maîtrise de leur art. Voilà, donc après l'adoration des mages, il serait intéressant d'établir une comparaison avec un autre tableau fameux de Botticelli, la fameuse Nativité mystique. Mais tout d'abord, un autre cantique de Noël pour nous enchanter. Nous allons donc nous pencher sur une autre toile du maître de la Renaissance, Sandro Botticelli, la Nativité mystique. Elle est plus tardive que l'Adoration des mages. Elle est peinte entre 1501 et 1505 et aujourd'hui on peut l'admirer à la National Gallery de Londres. Alors déjà, Patrizia Nitti, pourquoi ce qualificatif mystique alors que le thème de la Nativité du Christ est par essence mystique, n'est-ce pas ?
Oui, à l'aube du XVIe siècle, Botticelli s'approche toujours davantage du mouvement de régénération spirituelle et religieuse qu'il y avait à Florence. Et à Florence, il y avait son représentant le plus important, qui était le moine Gerolamo Savonarola. Contrairement à ce que, avant certains historiens, parce que nous n'avons aucune preuve que Botticelli ait formellement appartenu à son mouvement des Piagnoni, qui condamnait avec violence la dégénération des mœurs de son époque. En réalité, Botticelli n'adhéra jamais à ce mouvement, mais la nativité mystique contient certains éléments déterminants qui expriment sa très grande évolution.
Artistique et spirituelle.
Et spirituelle. Mmh. Le tableau représente la nativité non pas sur la terre, mais dans le règne des cieux.
C'est-à-dire qu'il y a une kyrielle d'anges qui sont au-dessus de la crèche.
Alors, au-dessus justement de cette humble cabane, on voit un groupe d'anges qui tourbillonnent comme s'ils voulaient entraîner vers le haut toute la représentation. Mais les anges sont aussi représentés dans la partie inférieure, dans l'attitude d'embrasser trois figures emblématiques d'artistes et de poètes, comme s'ils voulaient suggérer une trinité idéale.
Oui, il y a donc les trois anges qui sont au-dessus de la trinité entre Marie, l'enfant et Joseph.
Voilà. Alors en haut, on peut voir le détail le plus important et le plus révélateur. Une longue inscription grecque qui veut témoigner de l'appartenance de Botticelli à la civilisation grecque.
Oui, ce qui est tout à fait exceptionnel. C'est peut-être un des rares, ou sinon le seul, tableau qu'il ait signé, n'est-ce pas, Botticelli ?
Il revient très souvent dans toute son œuvre, dans ses origines et sa culture grecque.
Oui.
Ici, il la mentionne vraiment ouvertement. Bon, c'est la première fois, et d'une façon aussi évidente dans l'histoire de la peinture occidentale, qu'un peintre parle de lui-même et ose le faire en première personne.
Oui.
Ce privilège n'était consenti qu'aux poètes. Il suffit de se souvenir de Dante qui, au XIVe siècle, dans la Divine Comédie, parle à la première personne, comme s'il écrivait une autobiographie intellectuelle et morale. Botticelli vénérait Dante. Il avait fait pour lui un cycle extraordinaire de dessins sur la Divine Comédie. C'est la manière pour Botticelli de s'approprier de son esprit. La phrase sur le tableau de Botticelli dit, ça c'est très compliqué, « Cette peinture peinte à la fin des années 1500, dans les agitations de l'Italie, moi, Alexandre, à la moitié du temps, après le temps, je peignis, selon le 11e chapitre de Saint Jean, dans la deuxième douleur de l'Apocalypse, durant la libération de 3 ans et demi du diable, puis sera enchaîné dans le 12e chapitre et nous le verrons ensuite enterré comme sur la peinture, ce qui paraît incompréhensible. Botticelli fait référence à l'Apocalypse de Saint Jean où on peut lire la formule mystérieuse « à la moitié du temps, après le temps », ce qui signifie en réalité l'éternité.
Mais donc, on voit qu'il était quand même fortement inspiré par Savonarole quand il a peint ce tableau, n'est-ce pas ? C'était d'ailleurs quelques années avant sa mort.
Et il explique ainsi comment son tableau veut signifier la libération du diable et l'ascension au paradis.
Pardonnez-moi de vous interrompre, mais ça me fait penser donc à cette homélie de Savonarole. qui avait dit aux Florentins « Repentez-vous de ce que vous avez fait, repentez-vous de vos péchés, éloignez-vous du démon, laissez-vous gagner par les anges seuls capables de vous amener jusqu'au Sauveur. » N'est-ce pas ?
Botticelli était très imprégné de Savonarole. Même s'il n'a jamais fait partie du mouvement officiellement, il en était très proche. Et ce tableau est tout à fait dans l'esprit de Savonarole.
C'était comme une dictature théocratique quand même, il faut le rappeler.
Oui, c'était assez effrayant. Oui. Il brûlait les livres en place publique. Enfin, c'était terrible. Une dictature terrible.
Mais donc, finalement, chez Botticelli, ça a donné
lieu... Savonarole finira mal, d'ailleurs.
On pourrait faire une autre émission à ce sujet, mais en tout cas, ça se traduit dans la nativité mystique de Botticelli en quelque chose d'absolument sublime, où ces figures d'anges qui se mêlent en haut, donc au ciel, qui sont, je crois, 12, et je crois là aussi, il fait une référence à Savonarole, les 12 anges, enfin cette ronde des 12 anges au ciel, et puis les anges sont aussi en bas qui se mêlent aux gens simples. C'est absolument une merveille. Donc, Savonarole l'a bien inspiré, on peut dire, artistiquement.
Oui, Savonarole l'a beaucoup inspiré. C'est un tableau très compliqué, en fait, qui démontre toute la complexité de la réflexion de Botticelli.
Oui, et qui se traduit dans des compositions absolument sublimes et des couleurs aussi, un coloris absolument extravagant.
Mais par la phrase qu'on voit là, Botticelli ose dire « moi », ce qui est une manière tout à fait interdite pour les peintres à l'époque. Aucun peintre qui n'avait précédé Botticelli s'était permis d'utiliser le moi, c'est-à-dire la pensée en première personne. Mais aucun peintre n'avait le droit de donner son opinion personnelle, parce qu'il représentait l'opinion des commanditaires.
Oui,
donc c'est quelque chose d'extrêmement nouveau dans la peinture de l'époque.
Est-ce que vous avez d'autres Botticelli dans l'exposition des trésors des Médicis ?
Non, parce que les collections des Médicis sont immenses. C'est toute la base de tous les musées de Florence. Donc, on peut parler de 300 000 pièces. C'est quelque chose de colossal.
Oui.
Donc, nous avons fait une sélection parmi les œuvres qu'ils avaient personnellement, c'est-à-dire ceux qui habitaient leur maison.
Oui. D'ailleurs, on peut peut-être ici rappeler quelques-unes des institutions
prêteuses.
À Florence, voilà, il y a bien sûr la bibliothèque Medicea, la Laurentiana à Florence, et puis la galerie Borghese, l'Accademia, etc. Il y a énormément de musées qui ont contribué à votre exposition.
Mais surtout, tous les musées de Florence qui ont reçu, comme fonds, toutes les collections Médicis. Donc nous avons depuis les offices à la Bibliothèque nationale, à la Bibliothèque Ricardiana, au conservatoire avec ses instruments absolument magnifiques, le cabinet des dessins des offices, la Galleria Palatina. Et puis nous avons aussi, en dehors de l'Italie, des très rares prêteurs étrangers, comme Prague, qui a prêté ce merveilleux portrait d'Éléonore de Tolède, de Bronzino. Et deux tables surprenantes, parce que les Français les découvrent très souvent, qui sont au Musée national de sciences naturelles à Paris, et qui sont deux tables de marqueterie de marbre et de pierres précieuses, et qui ont été un don des Médicis au cardinal de Richelieu.
Ah oui, formidable.
Qui sont deux splendeurs absolues.
En tout cas, Patrizia Nitti, merci beaucoup de nous avoir fait accomplir ce voyage à travers la Renaissance italienne et la dynastie des Médicis. Il nous a permis, grâce à vous, de mieux connaître Botticelli et le versant religieux de sa peinture. Il me reste à vous souhaiter, Patrizia Nitti, ainsi qu'à tous nos auditeurs dans le monde, un Noël baigné de cette même ferveur qui inspira les grandes représentations de la Nativité. Joyeux Noël à vous tous.
Merci à vous.
Merci.